Depuis la fin des années 2000, l'empire américain était en phase de contraction relative. Fatigué moralement par les guerres d'Irak et d'Afghanistan et leur cortège de désillusions, secoué par la crise de 2008, les Américains ont montré peu de réaction après la guerre de Géorgie en 2008 également et l'annexion de la Crimée en 2014, et adopté une posture mondiale défensive face à la montée des BRICS, la contestation de l'unipolarité américaine et le grignotage du privilège du dollar. Le retrait catastrophique d'Afghanistan sous Joe Biden en 2021 et l'isolationnisme d'une grosse partie de l'électorat américain, soutien massif de la réélection de Donald Trump, ont nourri l'idée que l'empire américain était en bout de course, une parenthèse qui allait se fermer. Récemment encore, lors de la publication de la stratégie de défense nationale, certains commentateurs ont suggéré qu'elle attestait de la volonté de repli de l'empire américain. L'heure de la Chine semblait de son côté se rapprocher. Mais le deuxième mandat de Trump est arrivé en fanfare. Capture de Maduro, frappe contre les cartels et désormais guerre jusqu'au boutiste contre l'Iran. America is back, oui, mais plus encore, l'Empire contre-attaque. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 6 mars 2026, il est 21h33, bienvenue dans l'émission et n'hésitez pas à pousser, je vous le dis dès le début et de manière autoritaire maintenant, ça ira plus vite comme ça. Effectivement, pas de musique de Star Wars pour le générique, mais j'ai pas voulu que me prendre un avertissement sur la chaîne, je fais très attention à ça. Des fois je mets des trucs dans le live privé parce que je sais que ça ne donne pas lieu à des sanctions. Mais voilà, vous savez, on est toujours obligé de faire très attention avec l'algorithme. Toutes nos actions sont contemplées par Algod, donc nous faisons extrêmement attention. Ce soir, c'est le live hebdomadaire, donc il sera suivi d'un live privé réservé à nos chers souscripteurs, dans lequel je répondrai à leurs questions. Vous savez que je réponds à chaque fois à entre 25 et 30 questions, à peu près. Et donc c'est ce qu'on fera pour étendre le débat au-delà de ce que j'ai dit là. La semaine dernière, c'était le super live privé auquel vous avez accès avec la même souscription que celle qui donne accès au live privé, Maître Historionome. Et aujourd'hui, elle a également été publiée, je le dis, en collaboration. Alors, j'ai pas vérifié si elle s'affichait sur ma chaîne, mais elle est en collaboration. Normalement, elle doit être visible sur la chaîne aussi. Une interview que j'ai eue avec la chaîne des bâtisseurs, sur laquelle un certain nombre d'entre vous savent que j'avais déjà donné une interview. Alors, sur place à Paris. C'était il y a 2 ans, je crois. Là, c'est une interview qu'on a fait en visio, mais qui est également assez complète. Alors, les grands habitués de la chaîne connaissent à peu près ce que j'ai à dire sur tous les thèmes qu'on aborde, mais si vous voulez faire découvrir l'historionomie à des gens, je sais que la première vidéo des bâtisseurs était appréciée pour ça, mais je pense que celle-ci la complète bien, parce que j'ai pas trop l'impression qu'elle est redite par rapport à la première interview qu'on avait fait. Donc, ça peut être un bon moyen d'aller voir ça. Je l'ai mis dans les posts de communauté, de toute façon, avec le lien, si vous connaissez pas la chaîne. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus, sur les petites annonces. Ah oui, et donc j'étais à ma conférence que j'ai faite à l'Institut catholique de Vendée mercredi soir. C'était filmé, donc normalement ça sera mis en ligne. Je ne sais pas si je la mettrai sur la chaîne ou si je mettrai un lien, mais en tout cas, voilà, normalement vous pourrez y assister. Bien. Alors, ce soir, donc, j'avais hésité sur le sujet, et puis je me suis dit quand même qu'il fallait rester, sur cette question de guerre en Iran, parce que c'est quand même le gros développement de la semaine, qu'il s'est passé des choses depuis la semaine dernière, qu'on y voit un petit peu plus clair sur un certain nombre d'intentions américaines. Et puis en plus, je voudrais l'aborder sous un autre angle, effectivement, qui est l'angle proprement américain, et de la nouvelle stratégie américaine. puisque, comme je vous le disais en introduction, il y avait eu depuis, depuis après l'Afghanistan et l'Irak, il y avait eu quand même une bonne décennie, même plus d'une quinzaine d'années, de repli, au cours desquels, en réalité, l'influence américaine a très largement reculé dans une partie du monde. Elle s'est affaiblie, alors elle n'a pas forcément quitté un certain nombre d'endroits, mais enfin, elle y a été de plus en plus en concurrence avec d'autres influences, en particulier l'influence chinoise. Et ça a été vrai, notamment pour le Moyen-Orient, bien entendu, puisque après l'Irak et l'effondrement du régime de Saddam Hussein, il y a eu une progression, et même c'est à ce moment-là qu'a atteint son apogée l'influence iranienne au Moyen-Orient, avec le fameux croissant chiite qui allait jusqu'au Liban, grâce au Hezbollah, qui tenait la Syrie, qui tenait l'Irak. C'est même sans doute peut-être cet apogée d'une certaine manière. En tout cas, il y a eu un premier apogée de la puissance iranienne à la fin des années 2010, avant le printemps arabe, puisque le printemps arabe a enfoncé une espèce de coin dans cette influence iranienne, notamment en faisant émerger tout un tas de milices sunnites ennemies de l'Iran. En Irak et en Syrie, le plus gros danger étant naturellement l'État islamique, mais en fournissant également des opportunités à l'Iran, puisqu'il faut se souvenir que c'est dans le cadre du printemps arabe que le Yémen lui-même est entré dans une phase de trouble, qu'il a été frappé par l'Arabie Saoudite pendant longtemps, et c'est là que donc les Houthis ont pris le pouvoir, en fait, hein, tout simplement. Comme je vous l'ai déjà dit, ils contrôlent à peu près 75% de la population, donc on peut dire que c'est eux qui sont au pouvoir. Le gouvernement officiel est plutôt marginal. Et en devenant un relais également de l'Iran. Donc la capacité de projection s'est encore étendue dans cette direction. Il y a eu d'une certaine manière une première tentative de revenir là-dessus, finalement, ça a été avec l'exécution militaire de Qassem Soleimani le 3 janvier 2020 par l'Amérique de Donald Trump. Mais naturellement, cela est resté un petit peu sans suite, puisque ensuite il y a eu la pandémie, un certain nombre de difficultés mondiales et la fin du premier mandat de Donald Trump, donc ce n'est pas allé plus loin. Mais à part ça, il faut bien dire que grosso modo, l'Iran a pu obtenir son influence, encore une fois son apogée, le paroxysme de son influence au Moyen-Orient à cette époque-là, protégé notamment à la fois par, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'au début des années 2010 qu'il a réussi à obtenir l'accord sur le nucléaire, qui a été déchiré par Donald Trump, mais qui d'une certaine manière a redonné à l'Iran la liberté de faire ce qu'il voulait sur la poursuite de son arme nucléaire, et naturellement épaulé et protégé d'une certaine manière au Conseil de sécurité de l'ONU par la Russie et la Chine également, qui a multiplié ces dernières années les investissements dans cette direction. Par ailleurs, l'influence de la Chine, justement via l'Iran, s'est considérablement affermie au Moyen-Orient, avec notamment justement ces accords dont je viens de parler, mais aussi la réouverture des liens Iran-Arabie Saoudite, qui, jusqu'à il y a quelques mois, du coup, donnait le sentiment qu'on allait vers l'évolution d'une situation encore plus défavorable aux États-Unis, avec une Arabie Saoudite qui, finalement, peut-être se détacherait, c'était ça qu'on croyait voir venir à la fin du mandat de Joe Biden, une Arabie Saoudite qui peut-être commençait, elle aussi, à glisser en direction de la Chine. Sans parler, évidemment, de la progression de l'influence chinoise en Afrique, et aussi et surtout dans l'arrière-cour américaine, c'est-à-dire en Amérique du Sud. L'influence de la Russie également au Moyen-Orient était maximale via l'influence qu'elle avait dans l'Iran, puisque la guerre en Syrie précisément avait permis à la Russie de se déployer, de se redéployer encore plus en Syrie, de servir son narratif mondial, notamment en direction de l'Europe. Vous vous souviendrez que la Russie de Poutine a utilisé tous ses relais RT, Sputnik, etc. pour présenter la Russie comme le rempart de la civilisation finalement en Syrie, en expliquant que toute la défaite de Daesh en fait était due pratiquement plutôt aux Russes qu'à la coalition internationale, ce qui est faux. Mais ils ont forcément utilisé ce narratif-là, et ça a renforcé la puissance naturellement localement de la Russie aussi. Donc on se retrouvait dans une situation effectivement où l'Empire américain semblait en repli depuis un moment. Et c'était bien le commentaire qu'on faisait de plus en plus, enfin, pas moi en ce qui me concerne, mais qui était fait de plus en plus, c'était l'idée que l'Empire américain s'était terminé, que ça avait été une parenthèse dans l'histoire depuis grosso modo la fin de la guerre froide, et qu'à présent, ça allait être autre chose. Ce qui d'ailleurs correspond assez à ce que sans doute les Russes notamment pensaient eux-mêmes, puisque vous savez que quand la crise de 2008 s'est produite, il y a eu beaucoup de gens à Moscou qui se sont dit, grosso modo, ça y est, les Américains vont subir, ils sont assez prompts à faire des analyses foireuses à Moscou, les Américains vont subir ce que nous on a subi à partir des années 80, avec la ruine et la faillite finalement de l'URSS. Bon, ça n'a pas été le cas du tout finalement, mais il y avait vraiment cette idée-là et qui a nourri tout ce mouvement avec cette idée qu'on allait pouvoir dédollariser, etc. Et de fait, il y a eu aussi des avancées dans ce sens-là, avec des pays qui ont commencé à vendre du pétrole en monnaie chinoise, etc. Donc l'affaiblissement du dollar commençait à arriver. Alors j'ai parlé de grignotage en introduction, parce qu'on était plus près de ça que de la véritable dédollarisation, mais suffisamment pour que ça puisse quand même inquiéter, et qu'en tout cas que ce soit significatif. Et c'est Marco Rubio qui en a parlé encore récemment. Par ailleurs, en parlant de l'Amérique du Sud, il faut voir qu'il y avait aussi le trafic de drogue qui manifestait en même temps ce recul des USA, parce que dans la question du trafic de drogue aussi, on voyait des connexions entre justement les ennemis des États-Unis qui s'étaient renforcés par ailleurs, comme je viens de le rappeler. Vous aviez le Venezuela qui faisait du trafic de drogue notamment, qui utilisait le Venezuela, vous avez une connexion Venezuelo-Hezbollah, pour le trafic de drogue. Vous avez la Syrie d'ailleurs aussi qui travaillait dans le même genre, la Syrie de Bachar al-Assad, du trafic de Captagon. Et bien sûr, dans les composants du fentanyl, il y a beaucoup de choses qui viennent de la Chine, et vous savez que c'est toujours un peu controversé de savoir si la Chine fait exprès de nourrir les trafics en direction de l'Occident, ce qui correspondrait à une espèce de vengeance des guerres de l'opium, hein, puisque c'était un petit peu ce qu'on lui a fait au 19e siècle, hein, il faut dire ce qui est. Mais ça fait également partie voilà, toutes les choses qui faisaient reculer l'Amérique et qui faisait penser à certains que ça allait pas s'améliorer, parce que avec la montée du wokisme, qui représentait une espèce de démoralisation en plus nationaliste des États-Unis, l'impression qu'il n'y avait plus tellement de jus pour se battre. Je parlais du retrait catastrophique d'Afghanistan, mais il y a également eu l'attitude des États-Unis au moment de l'invasion de l'Ukraine, puisque malgré tout, il faut quand même pas oublier que c'est quand même les États-Unis de Joe Biden qui ont un peu laissé la porte ouverte, en disant « même si vous envahissez, on n'enverra personne », au lieu de ne serait-ce que rester à l'ambiguïté stratégique, même s'il avait l'intention d'envoyer personne, il aurait pu le dire juste comme ça. Mais voilà où on en était à ce stade. Et bien sûr, Donald Trump, qui a été élu sur l'idée qu'il serait le président de la paix, qui bénéficiait en cela, dans l'électorat américain, de l'image qu'il avait construite pendant son premier mandat, qui était celui du président qui n'avait pas lancé de nouvelles guerres, même si c'était pas tout à fait vrai, il n'avait pas lancé de nouvelles guerres, mais il avait quand même conduit par exemple des frappes en Syrie qu'Obama n'avait pas conduites, donc, et puis il avait fait buter Soleimani, encore une chose qui n'était pas rien, mais voilà, il s'en sortait avec cette image du fait qu'en tout cas lui ne lançait pas de guerre, voilà, il pouvait faire quelques frappes, notamment dans le cadre de négociations, mais que ça n'irait pas plus loin. Et on a vu que c'est allé plus loin depuis. On a vu d'abord ça, naturellement, avec la capture de Maduro, et on a vu ça ensuite avec les frappes sur l'Iran de Khamenei, qui annonce, en tout cas qui semble montrer une volonté assez claire, de reprise du Moyen-Orient. Mais au-delà de cette reprise en main du Moyen-Orient, en réalité, de rechercher à refaire basculer l'équilibre stratégique vis-à-vis de la Chine sur d'autres secteurs, notamment le secteur de l'énergie, mettre la main sur les robinets, tout simplement, puisque l'Iran est un gros fournisseur de pétrole de la Chine. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous diront « Oui, mais en réalité, non, l'Iran, si vous prenez la liste des principaux fournisseurs de pétrole à la Chine, il n'est pas dedans. » Le truc, c'est que si vous regardez la liste des principaux fournisseurs de pétrole à la Chine, vous aurez la Malaisie qui fournit plus de pétrole à la Chine qu'elle n'en produit annuellement. Mais c'est genre, en plus, je crois que c'est le quadruple de ce qu'elle fabrique. En réalité, c'est parce que la Malaisie se spécialise dans le transbordement et le réétiquetage de pétrole. Donc il est vraisemblable que le pétrole iranien arrive en Malaisie et réétiqueté et vendu tel quel à la Chine pour éviter les sanctions. Mais il reste que pour la machine économique chinoise, le pétrole iranien est important. Donc, il y a l'idée de contrôler l'énergie. Il y a l'idée dérivée de celle-ci de réaffirmer également la puissance du dollar. Parce que si vous contrôlez les robinets, vous contrôlez aussi dans quelle monnaie sera vendu ce qui sort des robinets. Donc, ce qui peut permettre de réaffirmer le dollar. Et par ailleurs, le dollar, vous savez, c'est une chose que je répète souvent. Quand on se demande sur quoi s'appuie le dollar, il s'appuie essentiellement sur l'armée américaine. Et la réaffirmation militaire de la domination américaine militaire mondiale est également un élément de réaffirmation du dollar et de manière générale de réaffirmation de la puissance, précisément dans ce cadre où on sentait des velléités de la Chine de plus en plus importantes en direction de Taïwan, justement bénéficiant de l'affaiblissement des États-Unis. Et de la même manière où Vladimir Poutine refuse de faire la paix en Ukraine. Alors pourquoi j'ai dit jusqu'au boutiste dans ma petite introduction à ce que je vous ai dit au départ ? Parce que nous avons... j'essaie de vous l'afficher. Nous avons cette sortie de Donald Trump sur son Truth Social aujourd'hui. Alors, je vais voir si je peux vous l'afficher en plein. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais, ça va, c'est toujours lisible. Qui nous dit la chose suivante. Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran en dehors de la capitulation sans condition, hein, unconditional surrender. Après cela, et la sélection d'un grand et acceptable leader, ou de ça, éventuellement au pluriel, hein, nous et beaucoup de nos merveilleux et très braves alliés et partenaires travailleront sans fatigue pour ramener l'Iran du bord de la destruction et le rendre économiquement plus grand, meilleur et plus fort qu'il n'a jamais été. L'Iran aura un grand futur. Make Iran great again, bien sûr. Thank you for your attention. Donc, ça me paraît quand même très important parce que depuis plusieurs jours, se poser la question. Alors, bien sûr, dans les médias français, ça aussi, entre eux, est-ce que Trump s'est fait forcer la main ? Est-ce qu'il a un plan ? Enfin, ce genre de truc, quoi. Toujours pareil. Hein, la question de savoir quand quelqu'un décide ce genre d'opération, que soit Vladimir Poutine en février 2022 ou Trump, c'est on pense que le type il va. J'allais employer une expression vulgaire. Voilà, il va les doigts dans le nez, on va dire ça comme ça, sans se poser plus de questions. Alors, Vladimir Poutine était sans doute allé plus les doigts dans le nez, en tout cas, ce qu'on peut en juger à ce stade, qu'en Ukraine, que Trump en Iran, étant donné que ça c'est visiblement, il y avait des estimations des services secrets russes sur la résistance de l'Ukraine qui était pas bon. Côté américain, L'attaque, il faut bien le dire, est quand même une grosse démonstration. C'était déjà assez visible quand j'ai fait l'émission de samedi dernier, parce qu'on savait déjà que Ramenei était mort, donc ça s'était pas bien passé pour lui. Là, on arrive quand même au stade où les frappes se poursuivent. Désormais, il y a une suprématie aérienne totale des Américains. Alors, je sais pas si c'est sur la totalité du territoire, mais enfin sur des larges parties du territoire. Vous avez en gros maintenant des B-52 qui font des norias, semble-t-il, pour balancer depuis plusieurs jours, pour balancer leurs bombes. Et les frappes sont assez systématiques et correspondent à cette idée qu'on avait déjà, hein, qui était de tenter une espèce de démolition contrôlée du régime. C'est-à-dire vous faites sauter tous les murs porteurs en fait, du truc. Donc vous avez buté le guide suprême, vous avez buté son successeur. Je crois qu'on en est au troisième d'ailleurs. Il y a son fils qui lui a succédé aussi et puis qui est mort. Donc il n'y a plus de leadership. Il n'y a plus de leadership. On a vu qu'il avait été question de cette défense décentralisée qui a été mentionnée en Iran, hein, c'est-à-dire le fait que, bah, tout simplement, alors il présente ça comme peut-être une avancée, ou il essaie de le présenter sous un bon côté. La réalité, vraisemblablement, c'est qu'il n'y a plus de chaîne de commandement unifiée. Donc chaque leader, commandant dans sa zone est chargé de faire son de balancer ses missiles sans trop de coordination forcément avec les voisins. Je voudrais d'ailleurs vous afficher les chiffres qui sont en baisse constante. Où est-ce que c'est? Ah zut, je l'ai fait disparaître mon... Voilà, c'est là. Est-ce que je peux le faire glisser pour que vous l'ayez dans le... Non, ça marche pas comme ça. Comment est-ce que je pourrais le faire? Bon, je vais essayer de me débrouiller autrement. Tout en vous parlant. Donc désormais sont frappés de plus en plus régulièrement, semble-t-il, l'équivalent iranien des préfectures, les commissariats, les casernes. Bref, tout ce qui permet de soutenir l'appareil répressif, et comme on pouvait l'imaginer, est détruit progressivement, systématiquement. Ce qui fait que on risque de finir par arriver à un point de rupture où tout simplement le régime, les forces de sécurité du régime ne pourront plus tenir le territoire. Il est question également, mais a priori jusqu'à présent, ça n'a pas été une réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu des confidences, semble-t-il, qui ont été faites d'officiels, qui ont mentionné des choses comme ça, mais ça n'a pas été fait. Il a été question du fait qu'il y ait des Kurdes qui soient armés et qui se préparent à lancer une offensive. J'ai vu une déclaration d'Edi Kurd, ou en tout cas d'un de leurs organismes, qui avait l'air de dire que... Il mettait en avant le fait que... qu'ils avaient toujours eu des bons rapports avec les Occidentaux, voilà, j'ai réussi à vous l'afficher, qu'il avait toujours eu de bons rapports avec les Occidentaux, mais qu'il s'était senti aussi un peu abandonné, notamment avec les retraits de Donald Trump, et que donc il ne participerait à ce genre de choses éventuellement que s'ils avaient des garanties de sécurité. Donc à voir si des choses comme ça vont être négociées, mais de plus en plus, il est question aussi de faire rentrer des armes dans le pays. Et donc l'hypothèse de le voir cela s'effondrer se renforce. D'autant plus que si on regarde encore une fois la résistance militaire de l'Iran, là vous le voyez, je ne sais pas si je peux vous l'agrandir un peu, voilà. Alors vous voyez que c'est l'Institute for the Study of War qui décompte depuis le premier jour de la guerre les missiles balistiques, les missiles de croisière et les drones envoyés par les Iraniens. Et vous voyez que, alors sur les missiles, ça affaiblit très fortement, ce qui laisse penser que les déclarations qui ont été faites tant par les Israéliens que les Américains sur la destruction des lanceurs étaient vraies. Il semble même que les Américains aient réussi à bombarder utiliser des B-2 pour faire sauter des tunnels dans lesquels il y avait des lanceurs qui étaient cachés. Et du côté des drones, alors il y en a un peu plus, mais c'est pas non plus massif, quoi. Donc on voit une baisse sans doute de la capacité des forces armées iraniennes à frapper. Alors s'ils peuvent continuer à balancer les drones, c'est embêtant naturellement, c'est gênant pour toute la région, ça peut créer des problèmes aussi économiques, mais ça semble pas poser des problèmes dantesques aux forces américaines. Parce qu'il faut se rendre compte notamment qu'ils ont perdu, alors là je lisais tout à l'heure Chris Capi, l'américain, l'ancien soldat qui, dont la chaîne est, je sais plus, le nom m'échappe, qui rappelait que, alors je crois c'était, je vais essayer de le retrouver, celui-là aussi, en... C'est assez impressionnant au niveau des chiffres. Pendant la première guerre du Golfe, donc en 1991, les Américains avaient perdu 75 appareils. Donc je suppose que c'est tout compris, c'est-à-dire des avions, des hélicoptères, etc. Et ils en avaient perdu 45 pendant l'invasion de l'Irak, c'est-à-dire en 2003. Soit descendus par les ennemis, soit par tir ami. Jusqu'ici, alors bon, ça va pas très loin, mais il y a trois, alors il y aurait un quatrième appareil qui aurait été abattu aussi. Un autre F-15 qui aurait été abattu. Alors, d'ailleurs, ce sont tous des F-15, c'est-à-dire des appareils qui sont relativement anciens, hein, malgré tout. Par rapport, voilà, vous n'avez pas eu de F-35 ou de F-22 qui a été abattu, naturellement. Mais c'est quand même, effectivement, très très bas. Alors, bon, ça fait que 5 jours de guerre, mais, bon, je veux dire, même si le rythme se maintenait pendant un mois, ça ne devrait pas monter très très haut. Ça montre La suprématie totale. Et Capi, d'ailleurs, souligne également que la Russie a perdu 350 appareils militaires, donc notamment des avions de transport, des chasseurs et des bombardiers, et sans compter les hélicoptères, pour le coup, ils en ont perdu 350, les Russes, en Ukraine. Donc ça montre qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ratios. Et que du coup, effectivement, ça se passe très mal pour les forces armées iraniennes. Ce dont on pouvait douter, parce que les mecs, ils avaient pratiquement plus d'aviation. Leurs appareils qui tenaient debout, principalement, c'était des appareils qui avaient été fournis à l'époque du Shah par les Américains. Les Russes étaient censés leur livrer une trentaine de Su-35. D'ailleurs, il en avait été question encore récemment. On craignait qu'ils arrivent en Iran. Finalement, semble-t-il qu'ils y sont jamais arrivés. Je sens que ça va beaucoup rager dans le chat ce soir, mais oui, désolé, l'Iran s'en prend plein la gueule. Hein. Si vous imaginez que l'Iran s'en sort militairement dans cette guerre, je pense que vous rêvez totalement. C'est un truc absolument délirant. Je veux dire, la suprématie américaine dans le conflit est totale. Là, la question ne se pose même pas. Je veux dire, quand vous faites décaniller l'essentiel de votre commandement, que vous prenez la suprématie aérienne, que vous avez votre marine qui a été coulée, et que l'adversaire il en est à détruire les commissariats chez vous, c'est que vous êtes en train de prendre une grosse branlée, quoi. C'est assez clair comme ça, sachant que déjà Israël seul les avait bien ridiculisés il y a 6 mois. Voilà où on en est, c'est-à-dire que les mecs, ils en sont à mener, à essayer de tenir le plus longtemps possible, en espérant que, leur seul espoir, ça peut être que les voisins régionaux demandent aux États-Unis d'arrêter. Et apparemment, ça prend pas dans cette direction, puisque les Arabes ont l'air assez contrariés, hein, que ce soit les Émiratis ou les Saoudiens de s'être, et le sultanat d'Oman aussi, de s'être pris des tirs, alors qu'eux n'avaient rien fait, au contraire, qu'ils avaient dissuadé les Américains d'attaquer. Vous avez l'Azerbaïdjan aussi, qui s'est pris un drone quand même. Qui sont, semble-t-il, qui ont rappelé leur ambassade qui est à Tabriz en Iran, qui envisage, semble-t-il, de rejoindre la coalition qui est en train de se former au cours de la guerre, en fait, contre l'Iran. Parce qu'en plus, ce dont il faut se rendre compte, c'est que ça change les termes de l'équation. Avant la guerre, les gens avaient pas envie que l'Iran s'effondre et qu'il y a à nouveau le bazar dans la région. On les comprend. Donc ils ont dit aux Américains, n'y allez pas. Maintenant que ça a commencé, tous les voisins craignent que si le job n'est pas fini, il se retrouve avec un Iran qui soit encore pire, qui soit encore plus un gros nid de terrorisme, qui soit l'équivalent d'un Iran, d'un Syrie-Irak x10 et ingérable. Et donc ils disent qu'il faut régler la question. Et donc vous risquez d'avoir une coalition effectivement qui va finir par se mettre en place, dans laquelle tout le monde vient participer pour remettre de l'ordre dans ce bazar. Et l'effondrement, très honnêtement, il est en cours, parce que à partir du moment où les Iraniens ont décidé de passer sur un commandement militaire qui est décentralisé, c'est-à-dire où les chefs locaux, des gouverneurs militaires, si vous voulez, de districts, qui s'occupent chacun de leur zone, à partir du moment où ces gens-là, où la situation de commandement décentralisé va durer. Parce que là, on est au bout de 5 jours, très bien. Mais ça va durer quelques semaines au moins encore, pendant le temps que les Américains continuent de bombarder. Ensuite, tout d'un coup, vous n'aurez pas un pouvoir central qui réapparaîtra tout de suite, sauf si ça a été géré entre-temps par les Américains, avec l'identification d'un représentant national, comme Pezeshkian, encore une fois, qui semble toujours vivant, pour créer une autorité alternative. Mais si ça n'est pas le cas, on va voir ce qu'on voit toujours dans ce genre de situation, c'est-à-dire que très rapidement, les commandants militaires locaux vont se transformer en seigneurs de guerre. Très classique dans ce genre de révolution nationale, puisque c'est bien ce qui va se passer. Hein. Je rappelle que je ne reviens pas sur ce que j'ai expliqué dans toutes les dernières émissions à ce sujet-là, mais l'Iran étant à une veille de révolution nationale, cette révolution nationale étant précipitée par les frappes américaines, eh bien, on va se retrouver avec ce qu'on s'est retrouvé comme situation. Si vous preniez, à la fois en Syrie, c'était ça, mais si vous preniez par exemple la situation de la Chine 4-5 ans après le début de sa révolution nationale en 1911 et la chute du pouvoir impérial, vous avez eu l'apparition. Ah, j'ai perdu le retour du chat, je sais pas ce qui se passe. Vous avez eu l'apparition de seigneurs de guerre, en fait. Et Chiang Kai-shek a passé une bonne partie de la décennie suivante, jusqu'au milieu de la décennie 35 d'ailleurs, a essayé de reprendre la totalité du territoire en réassujettissant les différents seigneurs de guerre. Les communistes n'étaient qu'une partie des branches armées qui se partageaient le pays à cette époque-là. Donc le risque, tout à fait, est d'ores et déjà celui-là en Iran aujourd'hui. On peut penser que les commandants qui ont été nommés ont encore une relative fidélité à l'égard du pouvoir central, mais plus le pouvoir central sera confié à des gens qui sont relativement inconnus parce que tous les autres ont l'organigramme au-dessus eux, que les gouverneurs connaissaient, que les chefs militaires connaissaient et auxquels ils obéissaient, auront disparu, mais vous aurez sans doute plusieurs de ces chefs militaires qui commenceront à estimer que c'est eux qui sont le chef de leur petit morceau de truc, comme a fait Haftar en Libye par exemple. Et donc il y a une grosse inquiétude là-dessus, assez nettement. Ah, je suis désolé de ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a une grosse inquiétude là-dessus chez les pays voisins, et ce qui va sans doute les pousser de plus en plus à agir et à essayer de faire ce que je vous avais dit, c'est-à-dire eux-mêmes de commencer à soutenir, financer des factions à l'intérieur pour essayer de trouver un moyen de faire une opération de sortie. Mais donc ce qui est particulièrement intéressant, encore une fois, dans ce que dit Donald Trump, dans son je vous le raffiche, dans son je sais pas comment on dit, son trousse, c'est que là où les commentateurs se posaient la question de savoir que voulaient les Américains, quelle était la vision de sortie des Américains, et notamment où se disait peut-être qu'il va finir par comme ça, quand ça lui pèsera, se déclarer victorieux, dire voilà, j'ai buté Khamenei, j'ai étrillé leur programme de missiles balistiques, j'ai achevé de détruire leur programme nucléaire, maintenant je m'en vais, débrouillez-vous. Voilà. Apparemment, c'est pas ça qu'il veut faire. Hein. Ce que tente à montrer cette déclaration, c'est que Donald Trump a l'intention de gérer aussi l'après d'une certaine manière. Alors, ça ne veut pas dire force, ça veut pas dire envahir l'Iran, mais ça veut dire qu'il a l'intention de superviser la solution qui viendra derrière et d'utiliser celle-ci, sans doute, pour faire avancer son agenda global. Parce qu'encore une fois, comme au Venezuela, cette manœuvre s'inscrit, et j'ai l'impression que maintenant les commentateurs commencent à le comprendre de plus en plus. Ils commencent à en parler, de la question du pétrole, de la question de la Chine, etc. Jusqu'ici, il n'en était pas trop question. Alors que ça s'intègre très clairement là-dedans. Et donc, je pense qu'on peut, on peut dire que Donald Trump a l'intention d'aller dans cette direction-là. Alors bien sûr, vous avez des gens qui vous disent, n'oubliez pas de pousser, hein, vous êtes presque 700, il n'y a que 200 pouces, faites-moi plaisir, c'est très important, soyez paradis. Les Américains sont vraiment dans la phase de ce retour impérial. Et la population américaine aujourd'hui, notamment la population MAGA, qui s'offusque de ce que fait Trump en Iran, ce sont des gens qui ne comprennent pas fondamentalement ce qu'est justement leur pays. Ce qu'est leur style de vie, surtout. Parce que l'économie américaine, depuis 1945, bénéficie de sa place impériale. Et c'est Marco Rubio qui a eu des déclarations là-dessus, justement, sur les faiblesses du dollar. Il a tenté de souligner que, alors il ne le dit pas exactement comme ça à la population américaine, mais on sent que c'est le message qui doit passer, c'est qu'en gros, une partie de la santé économique américaine et de la capacité économique américaine vient du fait que l'Amérique est une puissance impériale. Et que c'est parce que, notamment, ils ont le privilège du dollar que le niveau de vie à domicile, si vous voulez, peut être à ce niveau-là. Si jamais l'Amérique devenait vraiment isolationniste et perdait finalement son empire sur le monde, sans doute que les MAGA seraient encore beaucoup moins contents de leur situation que ce n'est le cas. Je pense qu'effectivement, dans une partie de la population américaine, alors il y en a qui peut-être par idéologie ou idéal pensent qu'effectivement il ne faut pas intervenir à l'étranger, etc., ce qui est tout à fait honorable, mais il y en a beaucoup qui pensent aussi que c'est parce que ça coûte trop cher et qu'il n'y a pas les moyens. Alors, ce qui est sans doute vrai, ça coûte cher à l'État américain, mais il faut se rendre compte ce que coûterait à l'État américain le fait de perdre cet empire sur le monde. Et naturellement, ça serait colossal, parce que tout un tas de comportements hégémoniques qu'ont les Américains économiquement, et tout, en fait, tout ce qu'ils ont réussi à déployer et qui a fait leur puissance depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, y compris avec les privilèges en matière de diffusion culturelle qu'ils ont obtenus avec le plan Marshall, etc. Tout ceci viendra à disparaître si l'Empire américain n'existait plus. Et Donald Trump, il en est conscient, et je vous rappelle ce que je vous ai expliqué déjà jadis, c'est que Donald Trump, c'est pas la fin de l'Empire américain. C'est l'idée que l'Empire américain ne doit pas profiter qu'aux élites américaines, mais que l'Empire américain doit profiter au peuple américain. C'est un peu, encore une fois, ce qui se passe à l'époque des Gracques, à Rome. C'est ça, la vision trumpienne de l'Empire américain. Et moi, je vous ai toujours dit, depuis le premier mandat de Trump, d'ailleurs, mes vieux articles de blog sont là pour en attester, qu'à aucun moment Donald Trump ne serait isolationniste. Les États-Unis ne peuvent plus être isolationnistes, c'est un empire. La question, c'est de savoir quelle est la vision de l'empire que vous avez. Est-ce que c'est un empire qui profite aux élites ou est-ce que c'est un empire qui profite à la population? Et l'idée de Donald Trump, c'est de faire profiter de l'empire la population américaine. Son idée, c'est que la réorganisation économique, les tarifs doivent servir à ça, vous savez. Il l'explique. Alors, on peut critiquer le raisonnement économique en disant que ce sont les consommateurs qui paient, l'augmentation des droits de douane. Néanmoins, il y a l'idée de Donald Trump de faire en sorte que ces tarifs produisent des recettes qui viendraient en remplacement de l'impôt sur le revenu pour une bonne partie des Américains. Ça, c'est une chose sur laquelle il revient régulièrement, qui n'a pas encore été mise en place, mais qui, vraisemblablement, est dans ses cartons. Il a l'intention de faire quelque chose comme ça. Et pour ça, vous êtes obligé d'avoir un empire qui fonctionne à l'extérieur. Vous êtes obligé d'avoir la mainmise sur le monde. Si vous lâchez tout ça, vous ne pouvez pas gérer ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Donc c'est aussi dans le cadre de la renégociation, la réorganisation de l'empire à l'échelle mondiale, en fait, qu'il y a besoin de ce genre de démonstration de force. Et c'est ça qui est en train de conduire en Iran, notamment. une démonstration de force majeure et une démonstration de force réussie, puisque, comme je vous l'ai dit, si vous comparez ce que les États-Unis ont fait, alors bien sûr, avec Maduro, encore les gens pouvaient contester, ils disaient, bon, Caracas, c'est pas très loin de la mer, c'est une opération commando, à la limite, il y a un petit peu de chance, etc. Bon. Là, avec l'Iran, on est sur autre chose. On est sur quelque chose qui a été préparé, avec des frappes séquencées les unes après les autres, où vous n'utilisez pas les mêmes munitions et les mêmes types de frappes dans le même ordre. Donc, c'est extrêmement... On voit une espèce de rouleau compresseur très professionnel de l'armée américaine. On sait comment pulvériser un pays et dominer totalement un pays militairement par des campagnes de bombardement. Vous savez, ça fait longtemps que j'entends notamment les arguments un peu tiers-mondistes souvent qui disent « Oh, mais les Américains, ils n'ont jamais été capables de gagner une guerre depuis, je ne sais pas, la Seconde Guerre mondiale. Ils ont perdu au Vietnam, etc. Ils ont perdu en Afghanistan, ils ont perdu en Irak, etc. » Alors, c'est... ils n'ont peut-être pas gagné et rempli la totalité des buts idéaux qui s'étaient fixés. Ça, je suis prêt à en convenir. Maintenant, si on revient aux réalités fondamentales de ce qu'est la guerre et de ce que vous cherchez à faire avec une guerre. Effectivement, le nation building, ça rate. Très bien. Par contre, il y a une chose qui est indubitable, c'est que les Américains et l'armée américaine sait casser la gueule de ses ennemis. Voilà. Ça, c'est déjà le truc de base. Une bonne armée, c'est d'abord une armée qui est capable de casser la gueule de celui d'en face. Et d'être celui qui reste debout à la fin. Et là-dessus, clairement, les Américains n'ont jamais était en position de faiblesse. Encore une fois, vous pouvez dire que la guerre d'Irak a été une catastrophe, c'est vrai. Il n'empêche que Saddam Hussein, il avait été abattu en 15 jours. Voilà. 15 jours, et en déployant, je crois, 150 000 hommes, ils avaient déployé. C'est pratiquement trois fois moins que ce qu'ils avaient fait en 1991. L'Afghanistan, ça avait été extrêmement rapide aussi. Donc quand il s'agit d'arriver et de rouler sur les gens, personne n'a la capacité de l'armée américaine. Personne. Et donc là, même si l'Iran, même si dans le pire des cas, le régime arrivait à s'accrocher, à s'enterrer comme ont fait les talibans en Afghanistan pendant un moment, etc., il n'empêche qu'ils en auront pris en entendant plein la gueule et qu'ils ont perdu les capacités d'influence qui étaient les leurs dans la région. C'est aussi simple que ça, sur les rapports. Et ça envoie un signal. Ça envoie un signal, encore une fois, à la Russie de Vladimir Poutine. Quand vous vous souvenez de ce qu'a été l'invasion de l'Ukraine, quand vous vous souvenez de tous ces missiles qui manquaient de précision, qui tapaient à côté, tous les problèmes de corruption qui sont apparus sur les systèmes à l'intérieur de l'armée russe, que les soldats étaient envoyés, on l'avait vu, on avait des images ça avant. On prenait à moitié des conscrits qu'on entassait dans des granges pendant trois jours avant de les envoyer au dernier moment, les types avaient froid, ils étaient, bon, avec l'idée que de toute façon l'armée en face s'effondrerait, c'était une opération, enfin, quand vous comparez avec ce qu'ont fait les Américains, c'était totalement amateur. Et même quand vous avez envie de rire en voyant la taille du budget militaire américain, que vous dites forcément que là-dedans il y a de la corruption, que là-dedans effectivement vous dépensez 35 000 dollars pour un marteau, comme disait le personnage d'Independence Day, n'empêche que l'argent il arrive quand même au résultat. Et le savoir-faire en matière de tout cramer, il est là aussi. Et dans le cadre d'une confrontation mondiale, ça envoie quand même un signal extrêmement fort à tous les adversaires, mais aussi aux alliés. Ça envoie un signal à tout le monde. Les alliés savent que la capacité de frappe, elle est toujours là. Elle peut leur faire peur aussi, parce que je pense que dans cette réaffirmation impériale qu'on observe, vous vous souviendrez que Donald Trump, juste après Maduro, s'est remis à parler du Groenland. Si les choses continuent à se dérouler relativement bien pour les Américains en Iran, il va reparler du Groenland encore, juste après. Il va dire, bon, le Groenland, là, il faudra savoir ce qu'on va lui répondre à ce moment-là. Il va sans doute également utiliser la suite en Iran, et je pense qu'il a ce but-là, pour développer son Conseil de la paix. Son fameux Conseil de la paix, je renvoie à l'émission que j'ai fait dessus, que je crois que j'ai laissé en accès gratuit en plus, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'avoir, pour ne pas la regarder. Dans cette... j'explique... Que le Conseil de la paix, c'est quelque chose qui est important, qui va avoir un effet, à mon avis, très fort, notamment dans l'après-confrontation mondiale. Je pense que ça va devenir un vrai truc de réorganisation à côté de l'ONU. Ça fait partie de la transition absolutiste au niveau américain, mais aussi au niveau mondial. Et le Conseil de la paix, l'idée du Conseil de la paix, c'est quoi ? À la base, c'était de gérer le conflit à Gaza. Mais le Conseil de la paix, il va également servir à Donald Trump, éventuellement, à régler la question de l'Iran. Vous ne croyez pas, à partir du moment où déjà, les États-Unis vont laisser personne, ils vont laisser ni les Russes ni les Chinois venir expliquer comment ça doit se passer en Iran après. De toute façon, ils n'ont pas intérêt à dire quoi que ce soit. Et jusqu'ici, ils n'osent pas dire quoi que ce soit, ou pas grand-chose. Le principal réflexe des Chinois, ça a été de demander aux Iraniens de ne pas fermer le détroit d'Hormuz parce qu'ils voulaient leur pétrole. Ce qui est quand même donc un des trucs les plus forts que les Iraniens pouvaient faire pour essayer d'appuyer, d'utiliser comme levier stratégique pour faire plier les Américains et surtout les alliés des Américains pour qu'ils fassent pression sur les Américains, les Chinois les en ont privés parce que les Chinois veulent leur pétrole. Donc vous n'imaginez pas que Donald Trump va aller proposer aux autres ou demander l'avis aux autres et en particulier au Conseil de sécurité de l'ONU, qui va pas aller demander leur avis aux Français, aux Anglais, les Anglais qui ont toujours pas été foutus d'ailleurs de faire démarrer, je crois, une de leurs frégates. Attendez, je crois que j'ai essayé de vous retrouver ça. Ils vont pas demander leur avis aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Il va décider souverainement de ce qui se fait et il va décider que ça sera géré dans le cadre du Conseil de la paix. Et quand il va dire, alors vous voyez, il est déjà en train de parler d'à quel point ils vont déployer à reconstruire l'Iran d'après. Ça veut dire qu'il y aura notamment naturellement des contrats, des investissements à faire dans le secteur pétrolier, l'énergie, etc. Il faudra passer par le Conseil de la paix. Il va le faire dans le Conseil de la paix et tous les gens qui voudront venir et espéreront faire de l'argent et avoir des contrats, en France on se rappellera de Renault hein, qui pendant longtemps c'était son marché principal dans la région d'exportation de véhicules. C'est très important pour les pays développés d'avoir accès à un marché de 90 millions d'habitants, surtout qu'on peut espérer, c'est un pays qui est éduqué, c'est un pays qui a un capital humain qui est important, l'Iran, hein, très clairement. D'ailleurs, assez comparable de ce point de vue à la Russie et à ce qu'elle a subi sous l'URSS. Hein. Il y avait de quoi faire nettement mieux avec le capital humain qu'il y avait en Russie. Et il y aurait encore de quoi faire mieux aujourd'hui, sans doute. Ça sera un hameçon, si vous voulez, ou un asticot sur l'hameçon extraordinaire, un appât extraordinaire, pour pousser un certain nombre de pays qui aujourd'hui ne veulent pas rejoindre le Conseil de la paix à y venir. Ce sera la condition pour accéder au marché iranien d'après. Et donc ça va changer énormément de choses. D'ailleurs, il est vraisemblable que du coup, la plupart des pays du Moyen-Orient, une partie sont déjà derrière Donald Trump d'ailleurs hein, sur cette question-là, mais d'autres rejoindront. Et à ce moment-là, les Européens notamment, qui ont des membres historiques à l'intérieur du Conseil de sécurité de l'ONU, risquent de se trouver marginalisés, naturellement. Et donc ça va renforcer encore un petit peu plus cette dynamique de reconstruction impériale de Donald Trump. Oui, c'est ce tweet-là que je voulais vous afficher de Louis Duclos qui explique ça, c'est démentiel, que ce navire-là, le HMS Dragon, devait être envoyé. C'est un destroyer qui devait être envoyé pour protéger la base de Chypre, vous savez, qui a été attaquée par les Iraniens. Et en fait, ils ne peuvent pas pour des raisons hallucinantes de syndicales, ce qui est que la base n'est ouverte que de 9h à 17h, et donc il était en réparation, et les réparations n'ont pas le temps d'être faites, donc ça ne peut pas être envoyé. Donc vous vous doutez bien naturellement que la place de pays qui font ce genre de démonstration au moment où les flottes américaines aidées d'Israël. Israël qui a d'ailleurs un rôle très important dans les frappes, c'est pas juste de l'aide, hein, c'est une part très très importante des frappes. On n'aura pas de rôle. Donc ce Conseil de la paix de Donald Trump, cette recomposition impériale encore une fois, elle va être accélérée par cette question de l'Iran. C'est vraisemblablement ce qui va se passer. Naturellement, la question de la reconstruction, ça dépendra de si le pays plonge effectivement dans le chaos ou pas, s'il arrive à sortir de ça un petit peu, notamment par le haut. Bon, là, on revient sur les différentes hypothèses d'issue du conflit sur lesquelles je vais parvenir, j'en ai parlé la semaine dernière. En tout cas, ce qui semble sûr, encore une fois, avec ce message sur Truth Social de Trump ce soir, c'est que on ne va pas vers un abandon et un repli américain relativement rapide qui laisserait respirer le régime et se reconstruire. Semble-t-il qu'on va pas vers ça. On va vers une Une Amérique qui a l'intention de maintenir la pression jusqu'à ce que le régime craque. Alors la question c'est, est-ce que c'est possible? Alors, Donald Trump a parlé initialement de 4 semaines d'opération. Logistiquement, ça sera peut-être compliqué de continuer à ce rythme-là au-delà de ça. Maintenant, il faut aussi voir que si le but c'est de faire en sorte que la population iranienne se soulève, que le régime craque véritablement, sans doute qu'il y a un moment où il faudra arrêter ou en tout cas espacer fortement les frappes. Pourquoi ? Ben, tout simplement pour laisser ce mouvement ressortir. Parce que sortir sous les bombes, c'est pas génial. Hein, vous ne faites pas de révolution comme ça. Et même si vous faites la suite de la guerre des 12 jours encore, en juin dernier, vous avez vu qu'il a fallu 6 mois pour que les manifestations reprennent. Il faut que les gens reviennent dans les villes. Il faut que la situation retrouve une espèce de cours normal, et peut-être suffisamment normal pour que la pesanteur du régime redevienne insoutenable. Donc peut-être qu'il faudra attendre un petit peu de temps comme ça. D'autant plus qu'à ce stade, les Américains comme les Israéliens ont demandé à la population iranienne de ne pas sortir et de rester chez eux justement pour permettre de pouvoir conduire les bombardements en évitant au maximum qu'il y ait des dégâts collatéraux sur les populations civiles. Donc forcément, dans ce contexte-là, c'est pas étonnant, même si, semble-t-il, encore une fois, l'autre soir, je vous en avais parlé, on avait vu des échos sur Twitter. Je sais pas si c'était finalement avéré, les quelques manifestations qui ont eu lieu en Iran. On a vu des manifestations pro-régime, ça c'est pas très surprenant. Le régime a dû, de toute façon, en partie les organiser lui-même. Et puis, de toute façon, les gens qui dépendent du régime, ils vivent un peu, c'est leur vie qui joue en ce moment, hein, donc ils ont tout intérêt à manifester en faveur de ce régime-là. Mais ça serait pas surprenant que ça prenne encore du temps, voilà, que ça se fasse pas en 15 jours. D'ailleurs, les gens qui font genre que les États-Unis ont déjà perdu la guerre parce que ça fait à peine 3 jours que ça a commencé, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Des guerres de 3 jours à cette amplitude-là, avoir encore une fois détruit la chaîne de commandement et vous avez la supériorité aérienne, vous pouvez pas dire on est foutu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faudra sans doute attendre encore un peu. Vous vous souviendrez aussi que les exemples que j'avais mentionnés, par exemple de pays en guerre qui avaient fini par faire leur révolution, que ce soit la Russie de 1917 ou l'Allemagne de 1918, il y avait eu des soulèvements antérieurs, dès un an avant à peu près, qui avaient été réprimés assez brutalement, pas autant dans le sang, enfin peut-être plus en Russie qu'en Allemagne. En tout cas, en Allemagne, ça n'avait pas été autant dans le sang que ça, que ça a été le cas en Iran. Mais enfin, ça avait eu lieu aussi, et c'est quelques mois plus tard que les vrais soulèvements ont démarré. Donc là aussi, c'est pas parce que vous avez eu des répressions en janvier et qu'aujourd'hui, pour l'instant, la situation est calme, que ça ne va pas réexploser d'un coup. Encore une fois, surtout qu'actuellement, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont dans l'expectative. Quand vous êtes, si vous êtes, il faut bien se mettre à la place aujourd'hui des Iraniens qui en ont marre du pouvoir, et qui faisait partie de ceux qui avaient envie de manifester contre le pouvoir, de ceux qui ont été réprimés ou qui ont des membres de leur famille qui ont été tués par la répression. Ces gens-là, vous mettez à leur place. Il y a les Américains qui arrivent et les Israéliens qui commencent à bombarder le régime et à descendre comme ça dans l'échelle de l'appareil répressif pour essayer de tout canner. Bah, vous attendez. Vous n'allez pas sortir tout de suite. Vous attendez que tout le boulot soit fait pour être le minimum en danger, être dans la meilleure situation possible quand vous allez sortir. Donc là aussi, sans doute qu'on ne verra pas ce genre de mouvement avant quelques semaines, et sans doute aussi que les Américains sont en train de prévoir, probablement avec Israël aussi d'ailleurs, cet après-là, et de prévoir les soulèvements, de prévoir les actions qui seront engagées localement, avec d'éventuels soulèvements, une éventuelle coordination aussi entre divers groupes locaux. Et puis vous allez aussi, vous risquez d'avoir aussi, encore une fois, des interventions autres. Si l'Azerbaïdjan commence à intervenir en Iran, je vous rappelle que les Turcs avaient dit que s'ils voyaient un risque d'afflux de réfugiés, ils se réservaient le droit de pénétrer sur le territoire iranien pour aller faire une zone tampon, j'en ai parlé plusieurs fois. Tout ceci risque de se déployer dans les semaines qui viennent. Donc très clairement, en fait, dans toute cette situation, dans tout ce qu'on voit, on a en fait c'est véritablement l'empire contre-attaque, c'est-à-dire que on sort du creux de l'influence américaine. Il y a eu un repli relatif, C'est ce que je disais depuis des années d'ailleurs. Hein. Je disais ça va être relatif et ensuite ça va revenir. La domination américaine reviendra. C'était encore une fois, c'était dans Des Empires et des Hommes, c'était dans l'Atlas des guerres à venir. J'étais constant là-dessus. Et donc on est en train de le voir avec Donald Trump. Je ne peux pas m'empêcher d'ailleurs de repenser. Je me dis qui se souvient d'eux, qui se souvient des gens qui nous disaient que Donald Trump était isolationniste, qui se souvient des gens qui disaient que l'élection de Donald Trump était une excellente nouvelle pour Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine voulait l'élection de Donald Trump. Hein, je rappelle qu'ici, vous avez beaucoup entendu que Vladimir Poutine redoutait une élection de Donald Trump. Je pense que vous comprenez que après ces trois mois de 2026, vous commencez à comprendre pourquoi. Vous commencez à comprendre ce que j'entendais par là. Alors effectivement, ça n'a pas donné lieu au même genre d'action directement en Ukraine, même si encore une fois, il y a eu des actions indirectes, il y a des choses qui ont été aidées pour les Ukrainiens, sur les frappes sur le pétrole russe, sur le détachement de l'Inde notamment, qui a été empêché d'acheter du pétrole russe. Semble-t-il qu'on leur donne une petite exception maintenant pour pas que leur économie s'effondre. Ils ont le droit d'acheter du pétrole russe en attendant que le pétrole iranien et que les flux en provenance de la péninsule arabique soient à nouveau stabilisés. Mais ces efforts ont été faits. Là où Donald Trump n'est pas allé plus loin, naturellement, c'est que Donald Trump ne peut pas se lancer dans ce genre de bombardement directement contre la Russie, parce que la Russie est une puissance nucléaire, et qu'il y a quand même, et c'est assez prégnant dans la vision qu'a Donald Trump est parfaitement conscient du danger de guerre nucléaire, d'où la volonté aussi de déployer le Golden Dome, et de minimiser ce danger nucléaire. Et donc de ne pas entrer en guerre directement contre les puissances nucléaires. Mais en même temps, en faisant la démonstration de ce qu'ils pourraient leur faire conventionnellement. Et imaginez ce qu'aurait donné une confrontation conventionnelle entre la Russie aujourd'hui et l'armée américaine. Alors, ça serait sans doute plus dur que par rapport à l'Iran. Hein. Mais on n'a pas vu, effectivement, jusqu'à présent, les systèmes anti-aériens, notamment chinois, qui ont, semble-t-il, été fournis à l'Iran. Bon, on n'a pas vu faire... Alors, peut-être qu'ils ne savent pas s'en servir, je ne sais pas. Mais ça n'a pas fait des étincelles. Et donc la suprême priorité, encore une fois, américaine, sauf si vous êtes vraiment dans le COP total pro-iranien pour dire qu'ils se défendent, qu'ils s'en sortent, etc. Honnêtement, c'est possible hein, qu'un certain nombre de gens qui sont là, encore une fois, j'ai même plus de retour du chat, c'est peut-être un peu plus mal, vous viendrez m'engueuler en commentaire sous la vidéo. Je lis des choses hallucinantes, des gens qui ont l'air vraiment persuadés que les États-Unis sont foutus, que c'est une catastrophe, qu'ils vont être obligés de se replier entre les jambes. Non, il y a peut-être des questions de drones, effectivement, qui leur posent des petits problèmes parce que c'est compliqué à intercepter, que ça coûte des intercepteurs, etc. Mais, je veux dire, la suprématie... Encore une fois, regardez, les Chinois, les Russes ne bougent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Les Chinois, semble-t-il, sont à leur plus bas de déploiement d'avions autour de Taïwan depuis 2023. Alors, deux choses l'une. Soit c'est qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup, en se disant que les Américains, ou en tout cas qu'ils se préparent à l'éventualité, en se disant que les Américains pourraient s'enliser en Iran, et donc ça, il faudrait être prêt s'ils veulent agir sur Taïwan. Soit c'est qu'ils se tiennent prêts à être en alerte au cas où, parce qu'ils se disent qu'ils ne savent pas s'ils peuvent en prendre une ou pas. Parce que je suis de plus en plus convaincu qu'il y a quand même cette terreur chinoise, en réalité. Moi, je pense de plus en plus que les Chinois ne veulent pas se venger du siècle des humiliations. Ils ont peur que le siècle des humiliations se reproduise. Donc l'Empire est effectivement de retour. Comme attendu, j'ai envie de dire, moi ça fait 20 ans que je dis ça, ça fait 20 ans que je dis que l'Empire américain, vous n'avez encore rien vu, il va y avoir une poursuite de la montée, parce que j'étudie la structure de ce pays et sa dynamique interne historionomique et qu'elle va vers une expansion et pas vers une contraction, c'est évident aussi avec Donald Trump. Naturellement, on est en fin de phase oligarchique, donc c'est une phase critique. Phase critique qui a son lot, justement, de difficultés. Parmi ces difficultés, vous pouvez avoir des difficultés économiques, des difficultés budgétaires, notamment parce que ce qui caractérise une transition du système oligarchique vers le système absolutiste, c'est que ça exige une très forte centralisation de ressources qui jusque-là sont dispatchées. Je vous ai dit, en parlant du Conseil de la paix, à quel point ça pourrait servir à centraliser justement une partie de ces ressources que les Américains n'ont pas. Mais les Américains ne vont pas stopper leur empire sur le monde parce que ça coûte trop cher. ça n'arrivera pas. Ils vont faire en sorte que l'Empire rapporte assez d'argent pour financer l'Empire. Et très clairement, c'est ce que Donald Trump est en train d'essayer de faire. Et jusqu'ici, avec un succès relatif. La question, l'inconnu encore, c'est de voir à quel point les Chinois sont motivés pour frapper, à quel point les Russes le sont aussi, et à quel point ça peut être imminent. J'en vois à ce que j'ai dit la semaine dernière. Ça reste des inconnus. Mais clairement, en tout cas, désormais, tout ceci arrivera alors que l'Empire est déjà en phase de contre-attaque et pas en phase de creux. Ce qui était une chose qui m'inquiétait relativement à l'époque de Joe Biden, et notamment de l'invasion de l'Ukraine, c'est qu'on était encore dans la phase de creux. Et là, clairement, là, on reprend la pente ascendante, on nomme le ministère de la Défense en ministère de la Guerre, pour rappeler que désormais on repasse à l'offensive. Voilà, on met un ministère de la Défense qui fait du développé couché, ce genre de truc, pour envoyer un signal. Et croyez bien que quand les Chinois et les Russes voient ce qui se passe en Iran depuis une semaine, quand par ailleurs ils savent que les États-Unis veulent dépasser finalement la question de la dissuasion nucléaire par la mise en place du Golden Dome, ça envoie des messages assez clairs. Et dans le cadre de la confrontation actuelle, c'est extrêmement important. Voilà ce que je voulais. Ah, j'ai réussi à réafficher le chat, tiens. Je vous encourage encore à mettre des pouces, extrêmement important. Vous êtes plus de 800, c'est très bien, ça me fait plaisir. Mais on n'a que 300 pouces. Donc je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, et ce sera encore vrai quand vous verrez l'émission en replay. Je suis désolé, j'insiste dessus, mais si les pouces étaient là dès le début, j'aurais pas à le dire. Hein. Encore, je suis gentil, je fais pas une grève de la suite de l'émission tant que j'ai pas les pouces. Mais très clairement, ça aide énormément. Hein. Moi, je le vois sur l'algorithme, sur les résultats de la chaîne. Je l'ai fait analyser par l'IA, ça, en plus, ça aide vraiment. Et on est passé, en ayant au même niveau hein, d'engagement de vue, on est passé de 600 ou 700 likes à plus de 1000 likes, et forcément ça a de l'effet. Donc faites-le, c'est vraiment un moyen, ça vous coûte rien, ça vous coûte de faire un clic. Donc si vous avez au moins un bras, essayez de le faire, c'est pas mal. Et si vous regardez sur téléphone, c'est encore mieux, vous pouvez même activer le boost, et ça c'est encore plus fort. Voilà, donc on va voir si on a des questions dont avant de passer à la suite. Alors, nous avons Vinroux, ou Vinroux, 9880, qui nous rejoint comme maître historionome. Je le remercie. Bienvenue. Nous avons, Chagatarayé, qui nous a fait un don important et qui nous dit « Après près d'un an de passagers clandestins, je surmonte ce soir ma phobie administrative et passe enfin à la caisse. Faites comme moi. » C'est très très gentil. Merci beaucoup pour le don. Alors, si tu veux accéder aux contreparties, il vaut mieux passer par la souscription, mais moi ça me va très bien, c'est très gentil, encore mieux, tu peux faire les deux. Merci infiniment. Et Mati qui nous pose une question, merci pour le don. Que pensez-vous de ceux qui font le parallèle anti-impérialiste Iran avec la guerre en Irak voire du Vietnam? Alors la guerre en Irak, c'était une, à mon sens, c'était une bêtise à l'époque, parce que il n'y avait pas besoin de faire des démonstrations de force particulière à l'ensemble du monde. Les États-Unis étaient déjà en état de domination totale. Mais c'est un autre biais qui les a saisis à ce moment-là, c'est qu'ils ont pensé. Alors c'était aussi une forme de réorganisation impériale, mais c'était un autre type de réorganisation impériale. C'était les néocons et qui avaient la volonté de détendre. C'était l'idée, c'était encore Fukuyama-esque, si vous voulez la manœuvre. C'était l'idée que puisque la démocratie est un peu l'aboutissement, que c'est la fin de l'histoire, il faut précipiter cette fin de l'histoire et fabriquer des démocraties dans toutes ces régions-là, en profiter pour améliorer la structure de tout ça, et en finir, on a déjà fini avec l'URSS, on en finira aussi avec l'Iran, avec tout ça, notamment en mettant à ses frontières une démocratie fonctionnelle. Vous savez, ça c'est souvent le truc, c'est on met une démocratie qui fonctionne à côté, et par l'exemple, ça va contaminer finalement la bonne démocratie chassera la mauvaise dictature, quoi. Et en plus de cela, cette vision-là était servie aussi par le fait que la population américaine, clairement, était un petit peu ivre de vengeance après le 11 septembre. Et l'Afghanistan, ça suffisait pas. L'Afghanistan, il s'agissait d'aller mettre trois coups de pied au cul à des types dans des montagnes. Ça fonctionnait pas médiatiquement et psychologiquement pour assouvir la volonté de vengeance. Et donc aller botter les fesses de Saddam Hussein et avoir un trophée à montrer, il y avait un goût politique pour aller faire ça aussi. Le Vietnam, on était encore sur quelque chose d'un petit peu différent. Le Vietnam, c'était... il s'agissait de... Alors, il y a quand même autre chose que j'ai pas souligné et qui, pour le coup, se rapprocherait de ce qui s'est passé au Vietnam. C'est qu'en Irak, il y avait aussi le fait de faire une... Et ça a servi à ça, malheureusement, même si je sais pas si c'était un but à la base, de faire une espèce d'abcès de fixation pour le terrorisme international. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont allés se battre là-bas. Bon, en Afghanistan aussi, vous me direz. Mais voilà, il y avait aussi l'idée de mettre un coup d'arrêt et avec l'idée un peu bricolée que Saddam Hussein était un soutien du terrorisme, alors que bon, l'Iran l'était sans doute plus. Mais voilà. Au Vietnam, c'était l'idée d'endiguer le communisme. Et c'est une... Alors, d'une certaine manière, ça a fonctionné. Là où ça n'a pas fonctionné, c'est que les Américains ont en fait laissé tomber le sud du Vietnam après le départ de Nixon. Nixon a toujours dit que si c'est lui qui était resté au pouvoir, il n'aurait pas laissé ça faire. Bon, maintenant, ce qu'on a constaté aussi, c'est que la chute... Et c'était aussi une erreur de calcul, d'une certaine manière, parce que la chute du sud du Vietnam n'a pas du tout provoqué un domino de communisme. Ça n'a pas tellement bougé au-delà. Donc, ce n'est pas forcément un bon calcul, le Vietnam non plus. La différence que je fais avec l'Iran, c'est qu'en Iran, contrairement à l'Irak et... alors, le Vietnam, il y avait des raisons d'aller défendre les Sud-Vietnamiens. Hein, parce qu'après, vous avez tous les boat people qui sont partis quand même. Hein, donc, les mecs n'avaient pas particulièrement envie de rester sous la domination du Nord-Vietnam. Mais... là, on est quand même face à un pays dont le régime semble sur le point de tomber. Parce que si vous regardez depuis 6-7 ans, vous avez de plus en plus souvent des manifestations de grande ampleur, et de plus en plus longues. Et vous avez une répression qui est... Alors, le régime a évolué lui-même en interne parce que la société iranienne évolue. Et en plus, vous avez une répression. Alors, on aurait pu se dire, cette répression a été très forte, ce qui a quand même motivé une partie de la... Alors, c'est pas ça qui a motivé intégralement les Américains, mais tout ceci est arrivé dans le contexte dans lequel, encore une fois, les Américains doivent gérer la plus grande menace pour leur empire mondial, justement, qui est l'alliance du bloc eurasiatique, avec la Russie et la Chine au premier rang, mais dont l'Iran, je disais, est le bas-ventre mou, en fait. Pourquoi c'est le bas-ventre mou ? Parce que... Alors, c'est à la fois le bas-ventre mou et le moyen de projection, parce que tout ce que je vous disais sur l'extension de l'influence du bloc, justement, sino-russe, en direction du Moyen-Orient, elle s'est faite notamment grâce à l'extension de l'influence de l'Iran. Et là, l'Iran est déjà sur le reculoir depuis 2 ans, à la suite du 7 octobre, et notamment des frappes d'Israël, mais vous avez la Syrie qui est tombée. Donc il y a une occasion unique finalement d'arriver à faire tomber le seul pays en fait contre lequel les États-Unis peuvent frapper sans craindre la guerre nucléaire. Et en plus, frapper l'Iran et faire tomber le régime iranien, c'est faire basculer définitivement éventuellement le Moyen-Orient dans autre chose, cette autre chose qu'essaie de reconstruire Donald Trump, notamment sur la base des accords d'Abraham, qui est un petit peu la continuation, en fait, du rêve, la démocratie en moins. C'est-à-dire l'idée de mettre la démocratie partout n'est pas là, mais l'idée de pacifier les rapports et de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'État terroriste au Moyen-Orient, c'est l'idée de Donald Trump. Donc il y a le moyen de faire ça, d'arracher définitivement le Moyen-Orient, en fait, d'expulser les Russes et les Chinois du Moyen-Orient, hein, c'est aussi tout simplement l'idée, et d'enfoncer un coin dans ce qui était un des principaux relais de pouvoir de la Chine et de la Russie, qui eux-mêmes ne peuvent pas entrer directement en guerre contre les États-Unis, pour les mêmes raisons que les États-Unis ne peuvent pas entrer en guerre contre la Chine. Donc on va chercher des conflits déterminants et des moyens de renverser la partie, si vous voulez, et d'obtenir un avantage décisif. En fait, l'idée, c'est, encore une fois, je vous en ai parlé il y a quelque temps, j'avais fait une émission là-dessus sur le... Je ne sais plus comment je l'avais intitulé cette émission, je vais essayer de vous la retrouver. Ça devait être une émission que j'ai faite il y a 2 mois à peu près. Le but, c'est de positionner, de transformer j'avais intitulé ça manœuvre croisée. C'est de préparer la guerre, et en fait c'est les manœuvres avant la bataille. Si vous prenez que la guerre elle-même c'est l'équivalent de la bataille, ben tout ce qu'on voit actuellement c'est des manœuvres, et y compris la guerre en Iran, c'est une manœuvre en vue de la bataille contre la Chine, bien sûr. Aussi la Russie, parce que la Russie refuse de se détacher de la Chine, a refusé les offres de paix pour l'Ukraine, etc. Donc attaquer en Iran, c'est un moyen de... C'est comme prendre une hauteur, c'est prendre une position stratégique qui fait que ben, vous êtes sûr de gagner derrière, et donc quelque part l'autre a déjà perdu, et est obligé de constater qu'il a perdu, avant même que vous ayez eu besoin de vous battre. Ça permet en outre d'influer sur un autre point qui est l'Ukraine, puisque l'Iran est un soutien important de la guerre en Ukraine. Pour la Russie, hein, puisqu'ils leur ont fourni des drones. Alors je ne sais pas s'ils leur en fournissaient encore beaucoup, puisque maintenant les Russes les fabriquent beaucoup tout seuls. Mais voilà, elle tient cette place-là. C'est-à-dire que la différence principale, je vous dirais, pour synthétiser mon propos, c'est que on marche vers une vraie confrontation. En plus, les Américains avaient de vraies informations sur cette confrontation, parce que d'une part, les Américains ont attaqué l'Ukraine, clairement, donc là, et mènent des frappes, des guerres hybrides, une guerre hybride en Europe. Hein, ils ont essayé de faire des actions de sabotage très importantes, notamment en Pologne. Hein, c'est pas de la blague. Et de l'autre côté, vous avez la CIA qui a alerté sur l'intention chinoise de plus en plus pressante sur Taïwan. Donc, dans ce cas-là, à partir du moment où la guerre risque de s'imposer, ce qui n'était pas le cas au moment du Vietnam. Il n'y avait pas forcément de guerre imminente. Encore que, quand la guerre au Vietnam a commencé, on était sous Kennedy, on sortait de la crise des missiles de Cuba, donc l'imminence de la guerre avec l'URSS, elle était quand même un petit peu vue. Et justement, ces conflits périphériques étaient vus comme un moyen de se battre là où, en champ clos finalement, là où l'ennemi n'était pas. Bon, là, ce qui se passe, par contre, c'est qu'on a, semble-t-il, des Américains qui se battent qui sont intervenus en Iran, et des Russes et des Chinois qui se battent. Alors, semble-t-il qu'ils donnent des renseignements, probablement notamment pour guider leur frappe, que les Chinois et les Russes donnent des renseignements aux Iraniens. Enfin, a priori, ça va pas tellement plus loin. Donc, et puis la grande différence, bien sûr, jusqu'à présent, c'est que les Américains n'ont, semble-t-il, pas l'intention d'envoyer des troupes au sol. Peut-être qu'ils en enverront. Très honnêtement, s'ils en envoyaient, ça serait probablement encore plus la branlée que là, parce que quand on se souvient de la vitesse à laquelle ils ont avancé en Irak, il n'est pas impossible que le pays tombera en un mois. Il faut quand même avoir conscience de ça. Il y aurait des morts, mais quand vous avez une telle supériorité, c'est le genre de résultat qu'on voit. Ah mais tiens, Chagat Arié nous a rejoint en plus dans la campagne d'une historien homme, donc merci beaucoup. Et donc, faut pas hésiter à venir nous rejoindre sur Telegram, du coup, hein, si t'es là maintenant. En plus, il faut profiter des avantages que te donne la souscription. Tom Vidéo, merci pour le don. J'avais une question, est-ce que du coup l'Iran sera en Coupe du Monde? Et deuxième question, est-ce que l'Iran va frapper la France? Alors, semble-t-il, ils veulent frapper tout le monde, notamment par du terrorisme. La question, c'est est-ce qu'ils ont des relais terroristes directs pour réagir comme ça, ou est-ce qu'il faut préparer au long cours? À mon avis, il n'y a pas de capacité de réaction aussi rapide. Voilà. Je me rends pas compte, en plus, si l'Iran avait vraiment ce genre de relais. Les derniers attentats qu'on avait en Europe, c'était plutôt lié aux mouvances sunnistes autour de Daesh. C'était moins l'Iran qui faisait ça. L'Iran était, semble-t-il, plutôt dans le déploiement régional, en direction des Houthis, du Hezbollah, etc., de ces milices en Irak. Donc ça dépend de la durée de la guerre, mais on est face quand même à des gens qui n'ont déjà plus de moyens de communication entre eux au sein de leurs forces armées sur le territoire iranien. Donc pour arriver à organiser des frappes loin, ça paraît un petit peu plus compliqué, à moins qu'il y ait des membres de leur corps diplomatique qui servent de relais à ce genre d'opération, mais ça serait quand même extrêmement périlleux comme situation. Et alors, est-ce qu'il sera en Coupe du Monde? Ça, j'en sais foutre rien. Je m'intéresse absolument pas au foot en plus. Ah oui, j'ai oublié de lire le commentaire le plus liké de l'émission précédente, puisque vous savez que c'est le privilège de celui qui est le plus liké dans les commentaires qui nous aide au référencement des vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter la chaîne, commenter la vidéo après, vous revenez après, et puis vous venez lâcher votre commentaire, hein, voilà, parce que ça, c'est mieux que dans le chat. Et n'oubliez pas les pouces, on est toujours à moins de la moitié. Si on peut dépasser la moitié au moins, on a 800 personnes. Si on peut arriver à plus de 400, c'est quand même pas mal. Donc c'est Designer Design qui nous disait merci à Madame Fabry qui a fort à faire pour éviter les évasions de Mini Fabry pendant qu'elle s'occupe des autres Mini Fabry. Ah oui, c'est vrai qu'il y a mon fils qui... Alors, pendant qu'il s'occupe de l'autre Mini Fabry, parce qu'il n'y en a que deux. Il y a mon fils qui est encore venu pendant le super live l'autre soir. Mais j'ai croisé des gens adorables lors de ma conférence en Vendée qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça très rafraîchissant d'entendre la voix de mon fils qui se pointe. Voilà, donc je sais pas si ça arrivera encore. Il m'a interrompu aussi pendant l'enregistrement de l'interview avec les bâtisseurs. Mais ça, je pense que ça a été coupé. Je pense pas qu'ils l'ont gardé. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. On va maintenant basculer dans le. On va basculer dans le live privé des abonnés. Je vous remercie à tous d'avoir été là ce soir. Si vous avez découvert la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche. On a très peu de gens qui ont activé la cloche en tendance. J'ai pas vérifié si la proportion avait évolué, mais dans le doute, activez la cloche si ce n'est pas fait. Pensez à aller liker les posts que je mets toute la semaine et à regarder les shorts aussi. On fait pas mal de shorts maintenant. Ça peut être utile aussi pour diffuser si vous voulez donner des exemples de ce que je dis et que je sais que les gens veulent pas se taper des longues vidéos en général. N'hésitez pas à partager tout ça sur vos réseaux sociaux. Bref, toutes les choses habituelles. N'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez accéder notamment aux diverses contreparties. Ce mois-ci, il n'y aura pas de bulletin géopolitique en accès libre parce que c'est tombé la semaine où il n'y a pas eu de bulletin géopolitique parce que j'étais en Vendée, donc j'ai pas pu le faire. Mais vous pouvez vous abonner pour avoir les suivants. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et vous laissez pas faire.